Si on a grandi avec des références, disons classiques, tu sais, qu'on ait lu un peu de littérature ou même juste regardé des films hollywoodiens, bah on pense tous connaître l'histoire originelle de la chute du diable.
Ouais, le fameux ange rebelle magnifique.
C'est ça, le mec précipité hors du paradis pour son orgueil. Mais que se passerait-il si le texte antique le plus célèbre au monde concernant Lucifer ne parlait en fait pas du tout d'un ange spirituel, mais, et là faut s'accrocher, d'un cadavre humain en train de pourrir sur un champ de bataille?
Bah ça, c'est clairement le genre de révélation qui t'oblige à relire toute l'histoire avec de nouvelles lunettes.
Carrément.
Et c'est précisément ce changement de paradigme qui rend notre immersion d'aujourd'hui si déstabilisante, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi.
Ah ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, notre exploration du jour nous plonge dans l'analyse fascinante menée par le docteur John Oswalt, qui décortique les chapitres 13 et 14 du livre d'Ésaïe. La mission de ce décryptage, c'est de comprendre pourquoi un texte, vieux de 2700 ans, consacre des chapitres entiers, avec une poésie d'une violence inouïe, à la destruction de Babylone.
Ce qui est fou quand on y pense.
Surtout que cette ville n'était même pas encore une menace pour l'auteur à cette époque. Le docteur Oswalt qualifie carrément ces chapitres de, je cite, « leçon de confiance ».
Et pour bien saisir l'enjeu de cette leçon, il faut vraiment poser le décor politique. En fait, nous sommes au 8e siècle avant notre ère. Le roi du royaume de Juda, un certain Akaz, vient de traverser une crise majeure et a échoué magistralement à son test de foi.
Il a un peu paniqué, non?
C'est le moins qu'on puisse dire. Face à des menaces militaires immédiates, au lieu de s'en remettre à la protection divine comme le lui conseillait le prophète Ésaïe, ce roi a choisi la solution de facilité. Il s'est allié avec la superpuissance terrestre du moment, la Syrie.
Du coup, ce texte, c'est une sorte de session de rattrapage.
Exactement. C'est une invitation pour le peuple à repasser cet examen de confiance.
Et pour comprendre cet examen, la source indique qu'il faut d'abord comprendre la nature de l'ennemi. Pourquoi pointer les projecteurs sur Babylone là, à ce moment précis? Parce qu'en lisant les notes historiques de Swalt, il y a un paradoxe énorme qui saute aux yeux.
Ah oui, le vrai monstre géopolitique.
Bah oui. À l'époque d'Ésaïe, l'empire qui écrase tout sur son passage, c'est la Syrie. Babylone, c'est juste une province, une entité complètement soumise au grand empire assyrien. Militairement, elle n'est pas du tout sur le radar de Juda.
Et c'est là qu'intervient une dynamique culturelle hyper importante. L'Assyrie avait la force brute, tu vois, la machine de guerre implacable.
Comme les muscles, quoi.
Ouais, voilà. Mais Babylone, elle avait tout le reste. Le prestige, l'ancienneté, la sophistication. Babylone cherchait sans arrêt des alliances pour se rebeller contre cette autorité assyrienne qu'elle jugeait indigne d'elle.
Le docteur Oswalt utilise d'ailleurs une comparaison que je trouve géniale pour éclairer ça. Il dit que Babylone, c'était en gros la New York de l'Antiquité. La ville vibrante, le centre intellectuel hyper riche. Et en face, la Syrie, avec sa capitale Ninive, ce serait un peu Washington DC.
C'est une image parfaite. Washington a le pouvoir législatif et militaire, c'est sûr. Mais du point de vue d'un citadin new-yorkais fier de sa culture, les politiciens de la capitale s'est vite vu comme...
des ploucs.
Exactement. Des provinciaux sans raffinement. Pour les Babyloniens, les dirigeants assyriens, c'était des rustres avec des gros bras, mais aucune classe, aucune ligne intellectuelle.
Bon, l'arrogance babylonienne s'est actée, mais ce qui est surprenant en lisant les 16 premiers versets du chapitre 13, c'est que Babylone n'est même pas nommée.
On lui peint un simple bulletin local. Le texte s'emballe dans un langage purement apocalyptique.
Avec des images cosmiques, oui.
Totalement. Les étoiles refusent de briller, le soleil s'obscurcit, les cieux tremblent. Il est même prophétisé que les humains deviendront plus rares que l'or pur. On passe d'un conflit régional à un cataclysme cosmique. Bah, subissement, il indique qu'Ésaïe utilise la ville de Babylone comme le symbole de quelque chose de bien plus vaste. C'est plus juste le procès d'une rébellion mésopotamienne, c'est l'annonce d'un jugement universel.
Ce qui est quand même audacieux.
Ah ben, Yahweh, le dieu d'un tout petit territoire, est présenté là comme le juge de l'intégralité du cosmos. Il convoque carrément les armées célestes pour exécuter une sentence sur l'humanité entière.
Faut vraiment s'arrêter là-dessus deux secondes. La déconnexion avec la réalité de l'époque est dingue. Les documents de la source rappellent que le royaume de Juda, c'était pas plus grand qu'un petit comté rural, genre le comté de Jessamine dans le Kentucky.
C'est minuscule.
Mais grave. Un territoire grand comme un petit département, cerné par des empires massifs et qui annonce le plus sérieusement du monde que sa constitution locale régit désormais les galaxies et toutes les superpuissances. Pour un observateur neutre, entendre ça, ça devait ressembler à un pur délire mégalomane. Comment il pouvait prendre ça au sérieux?
Ben, cette tension, c'est exactement ce que le texte exige. la véritable foi, si t'es à la tête du plus grand empire du monde, dire que ton Dieu est le maître de l'univers, c'est pas de la foi. C'est juste de la propagande basée sur la réalité matérielle.
Ouais, c'est facile.
Par contre, déclarer cette souveraineté cosmique absolue quand tu vis dans un royaume vulnérable, et que toute l'évidence militaire et économique hurle le contraire, voilà le vrai examen.
La confiance, quoi.
C'est ça. Affirmer la réalité d'une structure spirituelle quand la réalité matérielle ne l'appuie pas du tout.
Ce qui amène une question logique. Si ce jugement est universel, c'est quoi le crime universel qui provoque tout ça? Le verset 11 donne la réponse. C'est l'orgueil. L'arrogance humaine pure.
Il faut bien disséquer cet orgueil. On pense souvent que le péché de Babylone, c'est juste d'être cruel ou éthiquement méchante. Mais non, le crime, c'est l'autodéification.
Le fait de se prendre au pour-Dieu.
Exactement. Dire « je suis l'auteur de ma propre existence et j'ai de compte à rendre à personne ».
Et Oswald souligne un truc très inconfortable. Même des gens perçus comme très bien, des citoyens modèles, subiront ce jugement, parce que la racine de leur vie, c'est cette autosuffisance. Ça me fait penser à un débat passionnant soulevé dans les recherches annexes du dossier. Il y a cette donnée chimique assez drôle. Si on décompose un corps humain en ses éléments de base, genre carbone, eau, calcium, sa valeur sur le marché des matières premières, c'est quoi? 7,38 $, le prix d'un menu fast-food.
Matériellement parlant, on vaut pas grand-chose, ouais.
C'est fou, hein. Mais notre culture aujourd'hui est bâtie sur le mythe du self-made, sur la création de sa propre valeur par la volonté. Si le texte condamne la fabrication de sa propre grandeur, comment on évite le piège? Comment avoir de l'ambition sans tomber dans l'orgueil babylonien?
La nuance de Swelt est brillante là-dessus. C'est le mécanisme de création de cette valeur qui change tout. L'orgueil, c'est essayer de générer sa propre valeur, de l'intérieur, de se gonfler à partir de rien, comme une bulle.
Ça finit par éclater.
Fabriqué, mais parce que tu es créé à l'image d'un Dieu souverain. La valeur est reçue, pas autogénérée.
Ah ouais, ça modifie complètement notre vision de ce que les royaumes antiques appelaient la gloire. Babylone se pavanait en se disant « la gloire des royaumes ».
Sauf qu'en hébreu, le terme traduit par « gloire », c'est « kavod ». Et la racine du mot n'a rien à voir avec le fait de briller. « Kavod », ça signifie le poids, la densité, la substance profonde.
C'est génial. Pour imager ça, on pourrait comparer la gloire humaine à un magnifique coucher de soleil. Sur le moment, le ciel est rouge, spectaculaire, ça capte l'attention. Mais 10 minutes plus tard...
Il n'y a plus rien.
C'est ça. Le soleil disparaît et il reste qu'un ciel gris et terne. Il n'y a aucune substance. La gloire de Babylone, c'est ce coucher de soleil éblouissant, mais vide, alors que la gloire divine, le kavod, est présentée comme pesante, permanente. Le texte révèle que Babylone, sous son vernis, est creuse.
Et comme la structure est creuse, le texte enchaîne logiquement sur la description brutale de son effondrement physique. Là, l'attention se porte sur la géopolitique avec la mention d'une nation, les Mèdes.
L'histoire de cette alliance et d'une complexité, c'est fascinant.
Ah oui, un vrai cynisme politique. Les Mèdes, ça correspond à peu près à l'Iran actuel. En 605 avant notre ère, ils s'allient à Babylone pour faire tomber la Syrie.
Jusque-là, logique.
Sauf que la loyauté antique, ça n'existait pas. Quelques décennies plus tard, ils retournent leur veste, s'allient aux Perses et marchent sur Babylone pour la détruire.
Et c'est là que surgit un problème intellectuel massif. Oswald l'aborde frontalement. Historiquement, la chute de Babylone face aux Mèdes et aux Perses, c'est en 539 avant notre ère, soit 200 ans après l'époque des Aïs.
Et ouais, c'est là que les académiciens modernes bloquent.
Ben oui, l'approche critique dit que c'est factuellement impossible pour un humain de décrire des mouvements géopolitiques avec 200 ans d'avance. Donc beaucoup concluent que c'est une forgerie pieuse, écrite après coup.
C'est un débat fondamental, parce que si tu acceptes cette théorie de rédaction tardive, tout l'édifice du texte s'effondre. Oswald s'y oppose fermement.
Pourquoi?
Parce que l'argument central d'Ésaïe, c'est que le Dieu d'Israël prouve sa supériorité sur les idoles précisément parce qu'il annonce la fin dès le commencement. Il orchestre l'histoire. Si l'auteur a juste écrit un compte-rendu historique déguisé en prophétie...
C'est juste une fraude littéraire, en fait.
Exactement. Pour Oswald, la nature visionnaire du texte préserve le cœur du message. Le temps n'échappe pas à son créateur.
Ce qui rend les prophéties du chapitre 13 encore plus glaçantes. La violence poétique est folle. On parle de la civilisation la plus avancée du monde. Et le texte décrit un vide absolu. Des palais magnifiques aux fenêtres brisées, des toits effondrés. Et l'écosystème entier qui change.
L'ironie est tellement féroce. Une fois rasée, la ville devient même pas un pâturage paisible pour des moutons. Les nouveaux habitants, ce sont des charognards.
Ambiance.
Hyènes, chacals, créature du désert. L'hébreu utilise même des termes que certains traduisent par autruche ou par satyre, tu sais, ces figures mi-homme, mi-bouc, pour donner une aura presque démoniaque.
Le contraste est total. La ville qui voulait s'élever aux étoiles finit comme une gigantesque litière pour chacal. Et le truc qui ancre ça dans la réalité, c'est l'archéologie. Babylone a littéralement été avalée par le sable pendant 1500 ans, on ignorait son emplacement exact jusqu'à la fin du 19e siècle.
Incroyable.
Mais imagine aujourd'hui l'île de Manhattan, Wall Street, qui disparaît sous la boue de manière si complète que dans 1000 ans on se demanderait si elle a existé en droit des mitres.
C'est un effacement total, physique et mémoriel. Mais au milieu de cette destruction implacable, il y a une bascule au chapitre 14. Avant de s'attaquer au roi, il y a une pause, une promesse de compassion.
Ah oui, pour les exilés.
Exactement. Le texte affirme que ceux qui ont été écrasés par Babylone finiront par gouverner leurs oppresseurs.
Une inversion totale des rôles. Et une fois l'espoir posé, on entame le fameux chant de moquerie contre le tyran. La construction de ce passage est apparemment un chef-d'œuvre.
C'est le summum de la poésie d'Ésaïe. En hébreu antique, il y a un rythme très spécifique pour les lamentations funèbres, le maître Kina.
C'est quoi exactement Kina ?
C'est un rythme asymétrique, souvent 3 battements, puis 2. Ça donne un effet traînant, boiteux, genre ta-ta-ta-ta-ta. C'est lourd, c'est le son du deuil. Mais l'audace d'Ésaïe, c'est d'utiliser ce rythme funèbre pour chanter...
Une fête ?
Une allégresse planétaire, oui.
Une complainte de deuil, mais les paroles sont un éclat de rire cosmique. Le monde entier danse aux funérailles du tyran. L'image de la Terre qui pousse un soupir de soulagement est géniale. Même la nature s'en mêle. Le texte parle des cyprès et des cèdres du Liban qui se réjouissent. Depuis que tu es tombé, aucun bûcheron ne monte nous abattre.
C'est magnifique.
On dirait un manifeste écolo-antique. C'est la nature qui respire après l'explosion de l'usine la plus polluante du continent.
Et la caméra plonge ensuite sous terre dans le Sheol, le séjour des morts. La scène d'accueil est théâtrale. Tous les anciens rois de la terre, que ce tyran avait probablement massacré, se lèvent de leur trône ténébreux pour l'accueillir.
Et le comité d'accueil est super glacial. Les rois morts le regardent et murmurent. Toi aussi, tu es devenu sans force comme nous. Fini l'illusion de la divinité. Le linceul est arraché. Ce roi majestueux est maintenant étendu sur un lit de verre avec des asticots en guise de couverture. Burke.
Ouais, pas très glamour.
Et c'est exactement là que le texte aborde le passage le plus mal compris. Les fameux versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?
Voilà, le fameux malentendu de l'introduction.
Bah oui, parce que l'inconscient collectif a fait son boulot. Grand public, astre brillant tombé du ciel, bim, c'est la chute de Satan. On visualise l'archange banni avec les ailes en feu.
Faut vraiment dissiper cette confusion. Le texte biblique original, dans son contexte, ne parle absolument pas de la rébellion d'une entité spirituelle ou démoniaque.
Vraiment pas.
Non, la cible c'est un être humain, un monarque charnel terriblement arrogant. Ça pourrait être le roi assyrien Sargon, mort en 705 avant notre ère, dont le corps est resté sans sépulture pour les charognards. L'humiliation suprême. Le texte se moque de l'orgueil humain.
Mais alors, comment on a pu transformer un roi mort en seigneur des enfers ? Comment le nom Lucifer s'est retrouvé collé là-dessus ?
Le processus est fascinant, en fait. L'expression hébraïque, qui veut dire « astre brillant », a été traduite plus tard en latin par le mot « Lucifer ».
Qui veut juste dire « porteur de lumière », non ?
C'est ça, l'étoile de Vénus. Ce n'était pas un nom propre, juste un titre. Le vrai glissement se fait des siècles plus tard, dans la littérature anglaise, avec John Milton au XVIIe siècle.
Avec son paradis perdu.
Tout à fait. Il prend cette poésie d'Ésaïe sur un roi humain et l'utilise comme trame narrative pour décrire la chute de l'ange rebelle.
La puissance de la littérature, c'est dingue. Milton écrit un truc tellement fort que des générations entières ont lu Ésaïe à travers ce filtre. Mais du coup, si on enlève les lunettes de Milton, à quoi faisait référence Ésaïe avec cet astre voulant monter au ciel ? Oswald apporte une explication culturelle qui change tout.
Oui, l'analyse mythologique. Ésaïe utilise un vieux mythe cananéen que ses contemporains connaissaient très bien.
Lequel ?
Le mythe d'Attar, un dieu mineur, dieu de l'étoile du matin. Le dieu suprême, Baal, quitte son trône temporairement, et ce petit dieu, plein d'ambition, décide d'aller s'asseoir sur le trône cosmique de Baal.
Sauf que c'est hyper comique physiquement.
Mais oui !
Quand ce dieu mineur s'assoit sur le trône, il y a un léger problème de taille. Il est beaucoup trop petit. Ses coudes n'atteignent pas les accoudoirs, ses pieds balancent dans le vide. Il est physiquement incapable de remplir la place de Dieu. Les autres divinités se moquent de lui et le jettent en bas de la montagne, dans les enfers. C'est de la satire à l'état pur.
Ésaïe prend cette blague antique et l'applique au roi de Babylone. Tu as voulu t'asseoir sur le trône de Yahweh, mais t'es trop petit et te voilà balayé.
C'est génial.
Cette ironie résume l'essence des deux chapitres. Si tu rassembles tout, Arras, l'alliance ratée, les Mèdes, la satire, la leçon est claire. L'auto-élévation, la tentative de fabriquer sa grandeur en niant le Créateur, ça mène invariablement à l'humiliation.
Quiconque rivalise avec la souveraineté divine finit sans gloire, quoi. Et c'est un fil conducteur de toute la chronologie biblique. Dans l'Apocalypse, écrit des siècles plus tard, Babylone devient le symbole ultime de la civilisation arrogante qui s'effondre sous le poids de son propre vide.
L'orgueil vide l'édifice humain de sa substance jusqu'à ce que la structure cède au moindre choc.
Et ça laisse une réflexion vertigineuse pour notre époque. Autrefois, on construisait des ziggourats pour toucher le ciel. Aujourd'hui, on a nos empires numériques, nos profils en ligne pour projeter un succès constant. Chacun cherche à être le dieu de son propre petit cosmos.
L'autodéification, c'est la tentation universelle. La technologie a juste changé la forme.
On peut se demander, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les véritables Babylones qu'on s'épuise à construire au quotidien, follower par follower. Et surtout, quand la façade s'effondrera par manque de substance, quels charognards psychologiques viendront s'installer dans les ruines de nos ambitions déçues? Le prophète ne parlait pas d'un ange déchu, mais il avait bien cerné l'arrogance humaine. Restez curieux et on se retrouve pour notre prochaine exploration.